Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis au téléphone avec Cédric Villani, mathématicien que tout le monde connaît. Et dans notre série de podcasts sur des mots qui sont mal employés dans le langage courant ou qui parfois peuvent agacer, je crois que c'est le mot, des scientifiques, quel est le mot que tu as choisi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, cher Étienne, je vais pousser ma petite gueulante sur le mot exponentiel.
Ah ben, je suis content que tu le choisisses parce que moi aussi ça m'énerve. Je t'écoute.
Exponentiel, on l'entend un peu partout ici et là, et ça semble être devenu une sorte de synonyme de grand, très grand.
Ou croissant.
Ouais, c'est exponentiel. Bon, et disons un truc qu'on n'arrive pas à se représenter ou qui est effrayant par le fait que ce soit croissant.
Et on dit quelquefois, si ça continue, ça va devenir exponentiel.
Ça va devenir exponentiel, bon. Comme si exponentiel, c'était un truc qui, au début, tu l'es un peu, puis beaucoup, puis pas, etc. Bon, exponentiel, ça a un sens précis. Exponentiel, ça a été inventé dans un chapitre fascinant de l'histoire des sciences. On peut donner deux filiations à l'exponentiel. D'une part, c'est l'étude des phénomènes de croissance, que ce soit la croissance économique ou la croissance des populations. Et d'autre part, au plan mécanique, une façon de résoudre des problèmes de multiplication, de remplacer des multiplications par des additions. L'exponentielle, on peut l'avoir de plusieurs façons, mais elle a des propriétés remarquables, magiques. Magique est super importante et c'est complètement le dévaluer, le vider de son sens que de juste dire que c'est quelque chose de très grand.
Dis-nous ce que c'est que l'exponentiel.
L'exponentiel, il y a plusieurs façons d'y aboutir, mais c'est un signal, disons, une fonction. À x, elle associe y, y égale l'exponentiel de x, quelque chose comme ça, qui a la propriété extraordinaire que quand x avance d'une quantité fixée, eh bien y est multiplié par une quantité fixée. Autrement dit, si j'ajoute un truc à la variable, ça va multiplier le résultat par une quantité fixée. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On pourrait même se dire comment ça peut exister un truc comme ça. De façon très claire, il n'y a qu'un certain profil très particulier de fonctions qui permet de faire ça, c'est les fonctions exponentielles.
Je vais ajouter peut-être que multiplier par une quantité fixée, qui n'est pas forcément plus grande que 1, c'est-à-dire que l'exponentielle peut être aussi une décroissance.
Elle peut absolument être décroissance, genre, allez, mettons que ce qu'on ajoute, c'est 1. Donc, ce qu'on regarde, c'est un signal qui dépend du temps, mettons que ce soit une mise à jour toutes les heures. Et bien, par exemple, un signal exponentiel, c'est un signal qui, chaque heure, sera divisé par 2. Et donc, ça, c'est exponentiellement décroissant. Et évidemment, au bout d'une heure, ça sera la moitié, mais au bout de 10 heures, ça aurait été genre divisé par 1000. Donc, l'effet cumulé sera extrêmement petit. Et réciproquement, si je veux dire, une exponentielle croissante, mettons que soit, allez, tous les jours, c'est doublé, eh bien, j'attends un jour, ça va être multiplié par 2, mais j'attends 10 jours, ça sera multiplié par en gros 1000, de puissance 10, c'est 1024. Il y a deux exercices célèbres associés à l'exponentielle. Le premier, c'est celui-là. Dans une mare, tu as des nénuphars qui se multiplient très vite. Et au début, il y a un nénuphar. Et chaque jour, la surface des nénuphars est multipliée par 2, parce qu'ils croissent. Bon. Et en 30 jours, la mare est couverte, entièrement. Combien il a fallu de temps pour que la moitié de la mare soit couverte ?
Oh, c'est compliqué ta question. Je crois que je connais la réponse, mais peut-être pas l'auditeur.
Bon, alors, et d'abord, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau spontanément ? On voit ça, on se dit 30 jours pour couvrir toute la mare. Donc, pour couvrir la moitié de la mare, la moitié de 30 jours, ce sera 15 jours. C'est presque automatiquement la connexion qui se fait dans le cerveau, linéarité. Mais quand on réfléchit, on dit, ben non, si au bout de 15 jours, il y a une certaine surface qui est couverte, le 16e jour, c'est le double de cette surface qui sera couverte. Et donc, ça serait la mare couverte tout entier. Donc, en vrai, la réponse à ma question, c'est 29 jours. Si en 30 jours, toute la mare est couverte, ça veut dire qu'en 29 jours, la moitié de la mare a été couverte. Quand on revoit l'énoncé, on se dit, ah oui, s'il suffit d'un jour pour doubler, c'est simple, c'est bien ça. Mais quand on le pose dans la durée, le premier réflexe, c'est assez difficile à imaginer. Donc ça, c'est la difficulté de comprendre la fonction exponentielle. Fonction exponentielle, quand ça exponentielle croissant, au début, ça croît de façon raisonnée, compréhensible, on double, mais sur le long terme, ça croît d'une façon qui est juste incompréhensible, inarrêtable. Donc ça commence d'une façon qu'on a l'impression de devoir apprivoiser, et ensuite ça s'emballe. C'est ça l'exponentielle.
Et tu nous avais parlé d'une deuxième histoire.
La deuxième histoire, c'est celle de l'échiquier. Donc ça, c'est l'histoire du sage dans l'Antiquité, perse peut-être, qui accomplit quelque chose de merveilleux pour la nation, et le sultan, le prince, lui dit « Que veux-tu comme récompense ?» Et le sage malicieux lui dit « Écoute, je me contente de peu, je suis un homme simple, voici ce que je te propose, prenons un échiquier, et sur la première case de l'échiquier, un petit grain de riz. » Sur la deuxième case, 2 grains de riz. Sur la troisième case, 4 grains de riz, etc. Et je me contenterai modestement des grains de riz qui pourront tenir sur cet échiquier si on applique la règle jusqu'au bout. Et on se dit évidemment, ah bah d'accord, bah, il est modeste, il se demande juste quelques grains de riz, on va les faire. D'accord. Sauf que 1 grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième case, et ainsi de suite. Eh bien, si on regarde le nombre de grains de riz que ça fait une fois arrivé à la 64e case, c'est bien, bien plus que toute la Terre ne peut emporter pendant des générations. C'est juste inimaginable la façon dont ça croît. Donc ça, c'est vraiment une autre illustration de cette croissance exponentielle.
Je peux en donner une autre. Le nombre d'humains vivants aujourd'hui est comparable au nombre d'humains qui sont morts.
Absolument. Et ça d'ailleurs, donc ça, ce qui est une marque effectivement de la croissance exponentielle, qui est transitoire. Hein. Les gens pourront plus dire ça dans un siècle ou deux. Parce qu'entre-temps, on aura connu le pic de population mondiale. Et cette population qui avait grandi d'une façon à peu près exponentielle depuis, alors je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mais il y a eu diverses étapes importantes, à un moment va faire un pic et il va y avoir une bosse et ça va commencer à retomber globalement. Et ce régime exponentiel dans lequel on a été va s'arrêter au profit d'un autre régime.
Et maintenant, j'ai encore une question à te poser, ou en tout cas une référence. Malthus.
Malthus avait en tête que la croissance humaine serait exponentielle. Il y a plein d'auteurs qui ont travaillé sur ces croissances de population. Hein. Il y a aussi le fameux exercice de Fibonacci sur les lapins qui se reproduisent.
Mais Malthus a été plus loin dans la mesure où il en a tiré des conséquences économique et même sociétale.
Oui, alors Malthus, lui, il dit comme la croissance des ressources matérielles ne peut être que linéaire, la croissance humaine est exponentielle, il va falloir commencer à limiter la population sur Terre et se demander quelles sont les décisions politiques. Ça a été repris par plein de monde. Ça a été l'un des ferments de l'eugénisme qui a été très actif un peu partout dans l'Occident au XIXe siècle, et qui s'était infiltré un peu partout avec cette idée que certaines classes ou certaines populations avaient tout à fait le droit moral de se reproduire davantage que d'autres. Quelque chose qui est pour nous moralement horrible et politiquement impossible à porter. Maintenant, l'idée générale selon laquelle il faut travailler à une atténuation ou limitation globale de la population est quelque chose qui était encore présent dans les années 1970.
En effet.
Par exemple, quand on lit un texte très important dans la pensée intellectuelle et écologique mondiale, le rapport au Club de Rome, le rapport Meadows 72, on trouve cette posée sur la table, la question comment faire des progrès dans la limitation mondiale de la population. Et il faut se replacer aussi dans le contexte, hein, la pilule contraceptive venait de se généraliser, encore tout récemment, les questions de planning familial étaient un sujet difficile. Pas longtemps auparavant, les militantes pour la contraception aux États-Unis se faisaient emprisonner, tout ça. Donc, on sortait d'un contexte où le débat semblait beaucoup plus prenant. Maintenant que, je dirais, on s'est fait à l'idée que vouloir faire des limitations de population, c'est moralement attaquable et politiquement inefficace, parce que globalement, il n'y a aucun meilleur régulateur de la population que le développement, d'éducation et développement économique. On a abandonné ces idées. Et j'en profite pour dire, puisque je parle de ce rapport au Club de Rome, très beau rapport rédigé par Donella Meadows, qui a une belle plume et tout ça. Là, le premier chapitre de ce rapport, il s'appelle « La fonction exponentielle ».
Ah bon ?
Et il explique comment c'est important de penser en termes d'exponentielle. On est face à des systèmes dynamiques, la mise en équation du monde, ça demande de comprendre quelles sont les exponentielles positives, les exponentielles négatives, les rétroactions et tout ça. C'est un beau texte. Ça a été suivi après d'un très beau texte de Donella Meadows sur qui s'appelle Penser en système, Thinking in Systems ou quelque chose comme ça. Et il insiste sur le fait que l'intuition de cette notion d'exponentielle est fondamentale pour comprendre les évolutions du monde. Il y a un célèbre, son nom m'échappe, mais un physicien qui a dit un jour l'incapacité du cerveau humain à croire la notion d'exponentielle est l'une de nos malédictions. Et c'est des choses qu'on a pu, en temps de Covid, on a pu le voir, hein, quand on finissait la propagation de l'épidémie et tout ça. C'est vraiment des choses qu'on n'arrive pas à concevoir intuitivement.
Est-ce que je peux te raconter une petite anecdote et te demander ce que tu en penses ? Pendant le confinement, je faisais par Zoom, je faisais du soutien scolaire. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec un jeune étudiant qui était en première, très brillant par ailleurs. Et on a fait des exercices sur l'exponentiel. Alors l'exponentiel, tel qu'il est défini dans les programmes scolaires, c'est la fonction exponentielle et la seule fonction égale à sa dérivée, équivaut 1 en x égale 0. Alors on a fait les exercices, élève brillant, il les fait tous, il réussit tout va bien. Et à la fin de mon petit cours, je lui dis, quel est le rapport entre l'exponentielle dont on vient de parler à l'instant et ce qu'on voit sur toutes les télévisions, toutes les radios, tous les journaux, relatif au Covid ? Il me dit, je ne sais pas. Autrement dit, on a une situation actuelle où nos programmes scolaires mettre en place une fonction exponentielle qui est totalement déconnectée de tout ce que tu as raconté aujourd'hui.
Tout à l'heure, quand tu m'as demandé la définition de l'exponentielle, et où j'avoue, je n'avais pas préparé, révisé, et j'ai hésité parce que je me suis dit justement, parmi les différentes définitions possibles, laquelle je vais choisir. Et j'ai envisagé une fraction de seconde d'utiliser la définition par la dérivée, et je l'ai rejetée en me disant, je ne vais pas utiliser cette définition-là parce qu'elle est trop technique. Et là, ce que tu me rappelles, c'est que c'est la définition officielle du programme. Alors, les programmes, ils sont ce qu'ils sont. L'enjeu et la noblesse du métier, de la fonction de professeur, c'est précisément d'arriver à faire la connexion entre toutes les définitions et toutes les façons de voir les choses. Et c'est important qu'à un moment dans le cursus, on puisse faire le lien entre cette définition-là, la fonction exponentielle, c'est celle qui est égale à sa dérivée, et avec une normalisation de sa valeur en zéro, hein, et les autres façons de définir l'exponentielle. À la fin, ça arrive toujours à la même, et quand on maîtrise un peu, on arrive à voir justement comment on revient d'une définition à l'autre. Le programme, comme on sait bien, il est la résultante de tas de tensions contraires dans l'histoire de notre enseignement mathématique. Et on est passé d'une situation où on avait la France, grande nation de mathématiques, à coup sûr, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la plus grande nation de mathématiques au monde, celle qui forme le plus de mathématiciens, celle qui a le plus d'exigences dans ses programmes et tout ça. Et il y avait la tendance à faire quelque chose de très complexe. Et des générations entières se sont goûtées de la définition officielle de la droite, qu'elle était dans certains programmes scolaires façon Bourbaki hyper abstraite, sans nuance péjorative sur Bourbaki, mais vraiment avec cette idée de la notion la plus abstraite possible, la plus précise possible. Et il y a eu aussi sans arrêt des vents contraires, disant il faut réduire la voilure, rendre du plus concret, etc. etc. Quand moi j'étais élève en terminale, j'ai passé le bac en 90, hein, on dit souvent que c'était un peu le sommet, la fin des années 80, du niveau des jeunes dans les lycées par rapport aux évaluations scolaires internationales. Mais les tensions étaient là très clairement. Et quand j'étais en terminale, la définition des limites venait d'être modifiée.
Bon, je vais interrompre notre conversation à ce point. Non pas que la suite n'était pas intéressante, mais nous avons dérivé vers d'autres discussions, en particulier sur les programmes de mathématiques relatifs à la définition des limites qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'exponentielle. Merci Cédric, merci pour cet entretien. Vous avez écouté Philippe Glass, ce morceau intitulé « Façade » qui peut-être peut illustrer l'exponentielle puisqu'il démarre tout doux pour devenir très grand.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.